Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre une jeune Belge parler d'un événement organisé dans son entreprise. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Donc, quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé dans une grande entreprise belge pendant environ 2 ans. Cette entreprise a organisé un événement donc de team building qui a été organisé pour favoriser l'esprit d'entreprise et l'esprit d'équipe. Dans ce team building, toute mon équipe était invitée, c'est-à-dire mon département avec des ingénieurs ainsi que mon chef. Nous avons organisé une activité de laser game. Donc le laser game, c'est un peu comme le paintball, sauf que c'est avec des lasers. Et c'était organisé à l'air libre, donc dans une petite forêt. Ce laser game s'est déroulé dans une ville belge, donc une ville qui s'appelle Courtrai. Nous avions formé 2 équipes. Il y avait une équipe avec des plus jeunes, donc nous avions environ entre 20 et 25 ans. Et l'autre équipe était constituée de personnes un peu plus âgées, donc entre 40 et 50 ans. Nous, donc l'équipe de jeunes, nous étions persuadés, nous étions sûrs que les jeunes allaient gagner. Mais malheureusement pour nous, l'autre équipe était composée de personnes très sportives et donc les plus jeunes ont malheureusement perdu la partie de laser game, ce qui était très, très dommage pour nous. Et puis ensuite, nous sommes allés au restaurant et nous avons mangé surtout des plats à base de viande avec des frites. Et puis nous sommes allés dans un bar tous ensemble. Comme nous étions venus en covoiturage, certaines personnes pouvaient donc boire des bières, tandis que l'autre partie de l'équipe pouvait nous raccompagner à la maison. C'était une activité qui nous a vraiment plu et qui a permis de nous rapprocher les uns des autres et de nous connaître un peu mieux. J'ai beaucoup apprécié cette activité.
Et tu travaillais dans quelle entreprise ?
Alors, j'ai travaillé dans une entreprise de rayonnage industriel, donc c'est un domaine assez technique. J'ai surtout travaillé avec des ingénieurs. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le service client, donc je m'occupais des relations entre les clients et notre entreprise. Et oui, je m'occupais de clients dans le monde entier, mais en particulier en Europe. Donc, comme je parle allemand, français et anglais, je devais surtout m'occuper de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre.
Et tu as aimé ce travail ?
Alors oui et non. J'ai aimé parce que ça m'a permis d'utiliser les langues que je connaissais. Je n'ai pas trop aimé ce travail parce que c'était très stressant. Les clients sont en général très exigeants et ils sont aussi souvent insatisfaits. Et donc c'est un travail un peu frustrant, je trouve.
Beep.
Donc, quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé dans une grande entreprise belge pendant environ 2 ans. Cette entreprise a organisé un événement donc de team building qui a été organisé pour favoriser l'esprit d'entreprise et l'esprit d'équipe. Dans ce team building, toute mon équipe était invitée, c'est-à-dire mon département avec des ingénieurs ainsi que mon chef. Nous avons organisé une activité de laser game. Donc le laser game, c'est un peu comme le paintball, sauf que c'est avec des lasers. Et c'était organisé à l'air libre, donc dans une petite forêt. Ce laser game s'est déroulé dans une ville belge, donc une ville qui s'appelle Courtrai. Nous avions formé 2 équipes. Il y avait une équipe avec des plus jeunes, donc nous avions environ entre 20 et 25 ans. Et l'autre équipe était constituée de personnes un peu plus âgées, donc entre 40 et 50 ans. Nous, donc l'équipe de jeunes, nous étions persuadés, nous étions sûrs que les jeunes allaient gagner. Mais malheureusement pour nous, l'autre équipe était composée de personnes très sportives et donc les plus jeunes ont malheureusement perdu la partie de laser game, ce qui était très, très dommage pour nous. Et puis ensuite, nous sommes allés au restaurant et nous avons mangé surtout des plats à base de viande avec des frites. Et puis nous sommes allés dans un bar tous ensemble. Comme nous étions venus en covoiturage, certaines personnes pouvaient donc boire des bières, tandis que l'autre partie de l'équipe pouvait nous raccompagner à la maison. C'était une activité qui nous a vraiment plu et qui a permis de nous rapprocher les uns des autres et de nous connaître un peu mieux. J'ai beaucoup apprécié cette activité.
Et tu travaillais dans quelle entreprise ?
Alors, j'ai travaillé dans une entreprise de rayonnage industriel, donc c'est un domaine assez technique. J'ai surtout travaillé avec des ingénieurs. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le service client, donc je m'occupais des relations entre les clients et notre entreprise. Et oui, je m'occupais de clients dans le monde entier, mais en particulier en Europe. Donc, comme je parle allemand, français et anglais, je devais surtout m'occuper de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre.
Et tu as aimé ce travail ?
Alors oui et non. J'ai aimé parce que ça m'a permis d'utiliser les langues que je connaissais. Je n'ai pas trop aimé ce travail parce que c'était très stressant. Les clients sont en général très exigeants et ils sont aussi souvent insatisfaits. Et donc, c'est un travail un peu frustrant, je trouve.
Exercice 2. Vous allez entendre Marie parler de son enfance à l'étranger. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 8 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Quand j'ai lu son nom, ça m'a même fait penser à ces années colombiennes que j'ai passées durant mon enfance et qui m'ont bien évidemment extrêmement marquée. J'avais 2 ans et demi quand nous sommes partis à Bogota, la capitale donc de la Colombie, parce que mon père était prof de philosophie et il a eu un poste au lycée français pour enseigner la philosophie aux classes de terminale. À l'origine, nous aurions dû rester 3 ans, mais ça nous a tellement plu que nous avons prolongé le séjour de 3 années supplémentaires. Je suis arrivée, j'étais donc encore très très petite, 2 ans et demi, mais j'ai donc fait ma scolarité, le primaire, une partie du primaire et avant cela la maternelle, dans un contexte non seulement binational, mais je dirais surtout franco-espagnol. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que j'ai pu apprendre l'espagnol. Ce séjour reste pour moi, évidemment, inoubliable, dans le sens où c'était un petit peu le paradis perdu de l'enfance, enfin le vert paradis de l'enfance. Nous menions la belle vie. Nous voyagions beaucoup. Je sais que nous sommes allés dans les pays frontaliers de la Colombie. Étant très petite, il faut bien le dire, s'il n'y avait pas de photos, je ne m'en souviendrais pas beaucoup. Mais on se souvient, je pense, de détails quand on est petit, enfin, quand on se souvient de notre enfance. Donc finalement, c'est aussi très joli. On se souvient d'une... En allemand, on dirait la Frosch Perspektive. Et en français, voilà, c'est vraiment à petite échelle. Je me souviens des goûts, je me souviens de certains lieux. Et puis, cette scolarité dans ce lycée, je ne dirais pas que c'est ce qui m'a le plus fascinée, pour être tout à fait honnête. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment ces voyages à travers la Colombie, en Colombie avec mes parents. On est allé dans les Caraïbes, on est allé dans le sud, visiter de nombreux sites archéologiques. Et puis, il y a tout le côté de la nourriture qui m'a énormément plu en Colombie. Et ce qui est très beau, c'est qu'en 2013, j'y suis retournée. Donc, vous voyez, de nombreuses années après. Et j'ai pu ainsi comparer mes souvenirs, raviver certains souvenirs aussi, me rendre compte que j'avais vraiment remarqué des choses, enfin, peu remarqué certaines choses auxquelles on est peu sensible quand on est enfant. Et ce fut une très belle redécouverte, ce voyage. Quand j'ai lu son nom, ça m'a même fait penser à ces années colombiennes que j'ai passées durant mon enfance et qui m'ont bien évidemment extrêmement marquée. J'avais 2 ans et demi quand nous sommes partis à Bogota, la capitale donc de la Colombie, parce que mon père était prof de philosophie et il a eu un poste au lycée français pour enseigner la philosophie aux classes de terminale. À l'origine, nous aurions dû rester 3 ans, mais ça nous a tellement plu que nous avons prolongé le séjour de 3 années supplémentaires. Je suis arrivée, j'étais donc encore très très petite, 2 ans et demi, mais j'ai donc fait ma scolarité, le primaire, une partie du primaire, et avant cela, la maternelle, dans un contexte non seulement binational, mais je dirais surtout franco-espagnol. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que j'ai pu apprendre l'espagnol. Ce séjour reste pour moi, évidemment, inoubliable, dans le sens où c'était un petit peu le paradis perdu de l'enfance, enfin le vert paradis de l'enfance. Nous menions la belle vie. Nous voyagions beaucoup. Je sais que nous sommes allés dans les pays frontaliers de la Colombie. Étant très petite, il faut bien le dire, s'il n'y avait pas de photos, je ne m'en souviendrais pas beaucoup. Mais on se souvient, je pense, de détails quand on est petit, enfin, quand on se souvient de notre enfance. Donc finalement, c'est aussi très joli. On se souvient d'une... En allemand, on dirait la Frosch Perspektive. Et en français, voilà, c'est vraiment à petite échelle. Je me souviens des goûts, je me souviens de certains lieux. Et puis, cette scolarité dans ce lycée, je ne dirais pas que c'est ce qui m'a le plus fascinée, pour être tout à fait honnête. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment ces voyages à travers la Colombie, en Colombie avec mes parents. On est allé dans les Caraïbes, on est allé dans le sud, visiter de nombreux sites archéologiques. Et puis, il y a tout le côté de la nourriture qui m'a énormément plu en Colombie. Et ce qui est très beau, c'est qu'en 2013, j'y suis retournée. Donc, vous voyez, de nombreuses années après. Et j'ai pu ainsi comparer mes souvenirs, raviver certains souvenirs aussi, me rendre compte que j'avais vraiment remarqué des choses, enfin, peu remarqué certaines choses auxquelles on est peu sensible quand on est enfant. Et ce fut une très belle redécouverte, ce voyage.
Exercice 3. Vous allez entendre 6 personnes expliquer ce qui est important pour elles quand elles fêtent leur anniversaire. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, reliez les personnes interviewées avec leurs affirmations A à K. Il y a 2 affirmations dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, et donner un exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses. Personne 1.
Alors, une fête d'anniversaire réussie pour moi, c'est d'abord que tout le monde, tous les invités soient contents, que tout le monde s'amuse bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Ensuite, si je reçois des cadeaux, et quand je reçois des cadeaux, il faudrait que tous les cadeaux me plaisent. Comme ça, quand j'ouvre un cadeau, il n'y a pas de mauvaise surprise, je ne dois pas mentir ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faudrait pas qu'il y ait des discours. J'aime pas trop les discours, donc des discours un peu pompeux qui raconteraient un peu ma vie ou quelque chose comme ça. Non, pas pour moi.
Personne 2.
Alors, pour moi, une fête d'anniversaire réussie, c'est une fête où, avec peut-être une surprise, où je trouve des amis et je ne m'attends pas à ce qu'on ait préparé quelque chose pour moi. Et je rentre à la maison, je trouve mes amis, on peut faire une petite fête ensemble, on peut discuter avec de la musique et quelque chose à manger.
Personne 3.
Alors pour moi, une fête d'anniversaire réussie, généralement c'est une journée où je me sens très bien, où je suis entourée de mes amis. Et comme mon anniversaire c'est en été, j'aime beaucoup aller me baigner, mais ça ne doit pas forcément être la raison, ça ne doit pas seulement être mon anniversaire, mais vraiment être ensemble.
Personne 4.
Alors pour moi, un anniversaire réussi, c'est avant tout être entouré par les gens que j'aime. C'est-à-dire que si ma famille est là, ou si mes meilleurs amis sont là, ma copine est là, pour moi, c'est un anniversaire réussi. Après, les cadeaux, c'est pas obligé. Je suis très content d'en recevoir, bien sûr, hein, ça me fait toujours plaisir, mais c'est pas obligé. Et par contre, ce que je déteste avant tout, c'est les chansons. Si les gens pouvaient éviter de chanter à mon anniversaire, je serais très reconnaissant. Voilà.
Personne 5.
Alors pour moi, une fête d'anniversaire réussie, c'est un... Déjà, pour moi, c'est une journée ensoleillée, parce que je suis née en été. Et bien sûr, il faut des amis, la famille, beaucoup de cadeaux aussi. Et puis, pour moi, c'est important aussi de bien manger, de passer un bon moment, en fait, ensemble.
Personne 6.
Alors, pour moi, un anniversaire réussi, c'est un anniversaire avec ma famille, avec mes amis, avec des surprises. Il faut que ce soit une journée un peu extraordinaire, avec un bon gâteau, pas forcément beaucoup de cadeaux, mais je veux faire des choses rigolotes et voir mes proches.
Personne 1.
Alors, une fête d'anniversaire réussie, pour moi, c'est d'abord que tout le monde, tous les invités soient contents, que tout le monde s'amuse bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Ensuite, si je reçois des cadeaux, et quand je reçois des cadeaux, il faudrait que tous les cadeaux me plaisent. Comme ça, quand j'ouvre un cadeau, il n'y a pas de mauvaise surprise, je ne dois pas mentir ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faudrait pas qu'il y ait des discours. J'aime pas trop les discours, donc des discours un peu pompeux qui raconteraient un peu ma vie ou quelque chose comme ça. Non, pas pour moi.
Personne 2.
Alors, pour moi, une fête d'anniversaire réussie, c'est une fête où, avec peut-être une surprise, où je trouve des amis et je ne m'attends pas à ce qu'on ait préparé quelque chose pour moi. Et je rentre à la maison, je trouve mes amis, on peut faire une petite fête ensemble, on peut discuter avec de la musique et quelque chose à manger.
Personne 3.
Alors pour moi, une fête d'anniversaire réussie, généralement c'est une journée où je me sens très bien, où je suis entourée de mes amis. Et comme mon anniversaire c'est en été, j'aime beaucoup aller me baigner, mais ça doit pas forcément être la raison, ça doit pas seulement être mon anniversaire, mais vraiment être ensemble.
Personne 4.
Alors pour moi, un anniversaire réussi, c'est avant tout être entouré par les gens que j'aime, c'est-à-dire que si ma famille est là, ou si mes meilleurs amis sont là, ma copine est là, pour moi, c'est un anniversaire réussi. Après, les cadeaux, c'est pas obligé. Je suis très content d'en recevoir, bien sûr, hein, ça me fait toujours plaisir, mais c'est pas obligé. Et par contre, ce que je déteste avant tout, c'est les chansons. Si les gens pouvaient éviter de chanter à mon anniversaire, je serais très reconnaissant. Voilà.
Personne 5.
Alors pour moi, une fête d'anniversaire réussie, c'est un... Déjà, pour moi, c'est une journée ensoleillée, parce que je suis née en été. Et bien sûr, il faut des amis, la famille, beaucoup de cadeaux aussi. Et puis, pour moi, c'est important aussi de bien manger, de passer un bon moment, en fait, ensemble.
Personne 6.
Alors, pour moi, un anniversaire réussi, c'est un anniversaire avec ma famille, avec mes amis, avec des surprises. Il faut que ce soit une journée un peu extraordinaire, avec un bon gâteau, pas forcément beaucoup de cadeaux, mais je veux faire des choses rigolotes et voir mes proches.
Exercice 4. Vous allez entendre Paul, un jeune homme qui parle de concert particulier appelé Sofar Sounds. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 7. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Tu m'as récemment parlé d'un projet qui s'appelle Sofa Sound. Tu peux m'expliquer encore une fois ce que c'est exactement ?
C'est une organisation qui organise des concerts privés et secrets dans des appartements. Ça a commencé à Londres avec nos deux fondateurs qui en avaient marre d'aller à des concerts et de ne pas pouvoir écouter la musique parce que tout le monde autour parlait, criait ou dansait. Et ils ont décidé d'organiser des concerts dans des appartements où les gens doivent rester assis, n'utilisent pas leur téléphone et écoutent vraiment attentivement les artistes.
D'accord, ok. Et comment ça s'organise ?
C'est des personnes bénévoles, comme moi par exemple, et on cherche des appartements, on cherche des artistes, et puis on organise le concert, et les gens peuvent s'inscrire sur Internet. Et
sur une plateforme,
exactement. Mmh. Et une semaine avant le concert, les personnes obtiennent un mail qui leur dit si elles ont une place ou pas.
Okay.
Parce que les appartements ont des places limitées et on ne peut pas laisser rentrer 300 personnes. Mm-hmm. Généralement, c'est...
Pour combien de personnes ?
Généralement, on arrive à faire rentrer 70 personnes. Parfois plus, parfois mm-hmm. moins.
C'est déjà beaucoup.
Mm-hmm. Et chaque soir, il y a trois artistes qui peuvent présenter leur musique. Et les gens, par contre, ne savent pas quels artistes vont jouer. Ça fait partie un peu du mystère. Ça doit rester un secret jusqu'au soir même pour que les gens n'aillent pas sur Internet écouter la musique avant.
Ah bon ?
Mais pour que les personnes aient vraiment une surprise le soir même.
D'accord. Mmh.
Et pendant le concert, personne ne parle, tout le monde reste assis, tout le monde reste jusqu'à la fin. Et on commence très tôt, on commence à 19h et ça s'arrête à 22h. Et une fois que le dernier concert est fini, tout le monde s'en va. On nettoie l'appartement et on disparaît. Et
d'accord. Mmh.
Tout le monde a passé généralement une bonne soirée.
Mmh. Et est-ce qu'il y a assez d'appartements disponibles pour un truc comme ça ?
Trouver les appartements, c'est la partie la plus difficile. Particulièrement trouver les gens qui veulent bien prêter leur appartement à des inconnus. Mais on arrive généralement à en trouver. Et si on n'en trouve vraiment pas là, on peut attendre dans des bars, dans des lieux un peu différents, qui ne sont pas des salles de concert, mais qui ont quand même une atmosphère et une ambiance agréable.
Très bien. Et le mot « sofa sound », ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire « songs from a room », des chansons dans la pièce, si on traduit
oui,
ça en
okay.
français.
Mm-hmm.
Et c'est aussi un peu un jeu de mots avec « sofa », qui veut dire « canapé ».
Mmh.
Et qui doit représenter le caractère agréable et familial et joyeux de tout le projet.
Merci beaucoup, ça a l'air très intéressant. Tu m'as récemment parlé d'un projet qui s'appelle Sofa Sound. Tu peux m'expliquer encore une fois ce que c'est exactement ?
C'est une organisation qui organise des concerts privés et secrets dans des appartements. Ça a commencé à Londres avec nos deux fondateurs qui en avaient marre d'aller à des concerts et de ne pas pouvoir écouter la musique parce que tout le monde autour parlait, criait ou dansait. Et ils ont décidé d'organiser des concerts dans des appartements où les gens doivent rester assis, n'utilisent pas leur téléphone et écoutent vraiment attentivement les artistes.
D'accord, ok. Et comment ça s'organise ?
C'est des personnes bénévoles, comme moi par exemple, et on cherche des appartements, on cherche des artistes, et puis on organise le concert, et les gens peuvent s'inscrire sur Internet.
Et sur une plateforme ?
Sur une plateforme, exactement. Mmh. Et une semaine avant le concert, les personnes obtiennent un mail qui leur dit si elles ont une place ou pas, okay. Parce que les appartements ont des places limitées et on ne peut pas laisser rentrer 300 personnes. Mm-hmm. Généralement, c'est...
Pour combien de personnes ?
Généralement, on arrive à faire rentrer 70 personnes. Parfois plus, parfois mm-hmm. moins.
C'est déjà beaucoup.
Oui. Mm-hmm. Et chaque soir, il y a 3 artistes qui peuvent présenter leur musique. Et les gens, par contre, ne savent pas quels artistes vont jouer. Ça fait partie un peu du mystère. Ça doit rester un secret jusqu'au soir même pour que les gens n'aillent pas sur Internet écouter la musique avant.
Ah bon ?
Mais pour que les personnes aient vraiment une surprise le soir même.
D'accord.
Mmh. Et pendant le concert, personne ne parle, tout le monde reste assis, tout le monde reste jusqu'à la fin. Et on commence très tôt, on commence à 19h et ça s'arrête à 22h. Et une fois que le dernier concert est fini, tout le monde s'en va. On nettoie l'appartement et on disparaît. Et
d'accord. Mmh.
Tout le monde a passé généralement une bonne soirée.
Mmh. Et est-ce qu'il y a assez d'appartements disponibles pour un truc comme ça ?
Trouver les appartements, c'est la partie la plus difficile. Particulièrement trouver les gens qui veulent bien prêter leur appartement à des inconnus. Mais on arrive généralement à en trouver. Et si on n'en trouve vraiment pas là, on peut attendre dans des bars, dans des lieux un peu différents, qui ne sont pas des salles de concert, mais qui ont quand même une atmosphère et une ambiance agréable.
Très bien. Et le mot « sofa sound », ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire « songs from a room », mm-hmm. des chansons dans la pièce, si on traduit ça en okay. français. Mm-hmm. Et c'est aussi un peu un jeu de mots avec « sofa », qui veut dire « canapé ». Mmh. Et qui doit représenter le caractère agréable et familial et joyeux de tout le projet.
Merci beaucoup, ça a l'air très intéressant.
C'est la fin du test de compréhension orale.